Georges Pop.
Et nous sommes le jeudi 22 septembre 2011. Tout à l'heure, le soleil sur le plateau va se lever aux alentours de 7h19 et il se couchera aux alentours de 19h31. Des bandes de brouillard se sont formées en fin de nuit en plaine, mais ils devraient rapidement se dissiper pour laisser la place à un temps bien ensoleillé. En Ajoie, cependant, les passages nuageux pourront être parfois très denses, mais ils n'entraîneront pas de précipitations. Les thermomètres, ils affichent tôt ce matin environ 7 degrés. Cet après-midi, ils vont grimper jusqu'à 20 degrés sur le plateau et 23 degrés même en Valais centrale. L'actualité ce matin aux États-Unis, l'État de Géorgie a retardé l'exécution de Troy Davis prévue au pénitencier de Jackson pour permettre à la Cour suprême de se prononcer sur une demande de suspension déposée par les avocats du condamné qui affirment détenir de nouvelles preuves de l'innocence de leur client. On apprend cependant à l'instant que l'exécution aura bien lieu. La Cour suprême rejette la requête de suspension. C'est maintenant une question de minutes pour Troy Davis. Ce noir estime beaucoup de gens a été condamné à mort. Troy Davis jouit de l'appui de personnalités nombreuses comme l'ancien président américain Jimmy Carter, le pape Benoît XVI ou l'actrice Suzanne Sarandon. Des centaines de manifestations de soutien ont eu lieu partout dans le monde. Le président américain Barack Obama s'est lui refusé à intervenir pour empêcher cette exécution. Il explique que la procédure relève de l'État de Géorgie et non du pouvoir central. Donc l'exécution de Troy Davis aura bien lieu. C'est une question maintenant de minutes. Le président Barack Obama a salué le partenariat avec la France sur les dossiers libyens et ivoiriens. Il a refusé cependant de s'exprimer sur le plan du président Nicolas Sarkozy dans le dossier palestinien. Plus tôt hier, le président français Nicolas Sarkozy avait proposé un statut intermédiaire d'État observateur pour la Palestine à l'ONU. Il avait invité les Israéliens et les Palestiniens à faire des compromis pour parvenir à un accord de paix définitif d'ici un an. En Grèce, la perspective de nouvelles mesures d'austérité pour éviter le défaut de paiement a déclenché une montée des tensions sociales dans le pays, avec un appel des syndicats à une grève générale le 19 octobre prochain. Aujourd'hui déjà, les transports publics seront paralysés. Le gouvernement grec a annoncé qu'il allait procéder à partir du 1er novembre à de nouvelles coupes dans les retraites supérieures à 1200 euros par mois, instaurer le chômage technique pour 30 000 salariés du secteur public d'ici à la fin de l'année et abaisser aussi le seuil minimum d'imposition à 5 000 euros de revenus par an. Le plan de lutte contre les effets du franc fort est désormais prêt. Les deux chambres l'ont adopté sans retouche. Seuls l'UDC et les Verts libéraux ont marqué hier leur opposition au Conseil national. Le programme d'aide de 870 millions doit encore passer le cap des votations finales. Ce sera le 30 septembre. Une fois accepté, l'argent pourra être libéré dès le lendemain. L'assurance chômage recevra au maximum 500 millions. La baisse de la TVA pour le tourisme n'a pas été acceptée. En revanche, ce que regrette beaucoup le président du PDC, Christophe Darbelay.
Si j'ai un regret, c'est le secteur touristique, parce que le Conseil fédéral n'a pas pris la mesure de la problématique dans les régions de montagne, et notamment vis-à-vis de la saison d'hiver. Là, on aurait pu aller plus loin et faire un geste substantiel pour le tourisme. Et ce que je constate quand même, c'est qu'il n'y a pas une seule voix de la gauche, même des gens de gauche issus des régions touristiques, pour soutenir ce secteur, et puis que dans le Parti libéral radical, il n'y a pas eu de soutien, pratiquement pas eu de soutien, donc je trouve un petit peu dommage. On aurait pu ici faire un geste, mais je pense qu'on envisagera, alors avec la révision de la TVA, un geste substantiel, notamment pour la restauration qui a déposé une initiative qui demande d'arrêter la discrimination de ce secteur.
L'Allemagne et la Suisse ont signé hier à Berlin l'accord fiscal liant les deux pays. Le document paraffé le 8 août règle l'imposition des fonds non déclarés dans les banques helvétiques par des ressortissants allemands. La ministre jurassienne de la formation Elisabeth Baumschneider reste en course pour la succession de Micheline Calmiret au Conseil fédéral. Elle a confirmé son intérêt hier pour une candidature au gouvernement lors d'une séance du comité directeur du Parti socialiste jurassien. Fribourg se mobilise, tout parti politique confondu, contre un projet de construction d'une grande antenne destinée aux communications de l'armée au sommet du Molaison en Gruyère. Le Molaison qui est un peu la montagne sacrée des Fribourgeois. On écoute le préfet de la Gruyère, Maurice Ropra, il est indigné.
La démarche qui vient d'être initiée est peu élégante puisque les autorités régionales et cantonales n'ont pas été informées. On n'a pas tenu compte de la sensibilité qui prévaut dans la région. Le Molaison, pour nous, c'est une montagne tout à fait identitaire, symbolique, qui joue un grand rôle dans le tourisme de notre canton. Nous ne pouvons donc pas accepter un tel projet.
Lausanne Sport et Neuchâtel Xamax ont échoué face respectivement à Bâle et à Berne lors de la 9e journée de Super League. Lausanne s'est incliné 6-0 tout de même face au FC Bâle. Neuchâtel Xamax a été battu 4-1 par les Young Boys. Et puis le groupe rock américain REM a annoncé hier sa séparation sur son site internet. REM a signé en plus de 30 ans d'existence 15 albums et a aussi enchaîné des dizaines de tubes dont Everybody Hurts ou encore Losing My Religion. Il est 5h et un peu plus de 5 minutes. On passe à Sport Matin.
Sport Matin avec Total Mobile, l'assurance mobilité de Volkswagen, véhicule utilitaire.
Fabian Cancellara n'a décroché que la 3e place hier au contre-la-montre des championnats du monde. Les spécialistes n'en sont pas revenus d'ailleurs à Copenhague. Le Bernois s'était montré intraitable sur son terrain de prédilection depuis l'an 2006, enchaînant 4 titres mondiaux et un titre olympique. Alors même battu, Fabian Cancellara reste une référence en matière de contre-la-montre. Pascal Turner.
Impossible d'affirmer qu'une passation de pouvoir s'est opérée hier entre Fabian Cancellara, le roi de la discipline depuis 5 ans, et l'Allemand Tony Martin, nouveau champion du monde, qui patientait dans l'ombre du maître depuis 2009. Le Brandebourgeois reconnaît d'ailleurs s'être inspiré de Cancellara pour sa manière de gérer l'effort solitaire. L'ancien directeur sportif du Bernois, le Danois Bjarne Riis, estime d'ailleurs que c'est cette qualité qui a fait de lui, ces dernières années, le coureur le plus régulier en contre-la-montre.
C'est pas seulement comment il fait dans les courbes, quand il vire dans les courbes et tout ça. C'est plutôt les techniques qu'il a, les manières de faire sa course, de calculer sa course. Quand moi j'ai eu la chance d'être derrière lui beaucoup de fois, et c'est une chose exceptionnelle. Parce que c'est quelque chose qu'il sait faire vraiment bien.
Mais en dehors des qualités techniques, le contre-la-montre reste une affaire de puissance. L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur de plusieurs étapes du Tour de France dans les années 80 et vainqueur du Tour d'Espagne en 1988, estime que la supériorité affichée par Fabian Cancellara jusqu'à hier dans le contre-la-montre est avant tout une affaire de force physique.
Contre le monde, premièrement, c'est physique. Si tu n'as pas le physique pour faire, c'est très très dur à faire de bon temps. Cancellara, c'est un type, il est très très fort quand tu le vois, c'est un très costaud. Cancellara, peut-être le grand spécialiste. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'aérodynamique, tout ça, mais ils disent que Cancellara, ce n'est pas un des meilleurs, mais il est bien quand même. Mais avec la force qu'il a, il sait gagner le contre-la-montre contre n'importe qui.
Cette capacité à rouler fort, seul, sur la route, Fabian Cancellara l'a toujours travaillé. Il passe plus de temps que n'importe quel autre coureur à s'entraîner en solitaire. Il s'est aussi bonifié en développant ses qualités de finisseur pour remporter les grandes classiques comme Milan-San Remo, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Des victoires systématiquement remportées à la pédale sans avoir besoin de se montrer fin tacticien. Une faculté qui est chez lui un don de la nature, selon l'ancien coureur suisse Sven Montgomery.
Je pense surtout c'est son génétique qui l'avantage. Après, en plus, c'est vrai, il a une très bonne technique dans les descentes, dans les virages, et il sait se poser bien sur le vélo, mais lui, il n'a pas appris une technique qui est révolutionnaire au niveau de la fréquence ou comment il se pose sur le vélo. Il n'a pas fait quelque chose complètement de neuf. C'est seulement il a perfectionné peut-être certaines choses. Lui, il a tout reçu pour être un super chronomane, mais pourquoi et comment on dit toujours les grands gabarits sont avantageux. Et après, on va un petit coureur comme Jack Pobridge, qui est quand même quatrième aujourd'hui. À mon avis, c'est difficile à expliquer, ou presque impossible.
Inexplicable, comme toujours, avec les grands champions, comme leur capacité à revenir au sommet, même lorsqu'on les croit sur le déclin. Fabian Cancellara a d'ailleurs pris rendez-vous pour la course en ligne de ces mondiaux de Copenhague dimanche.
Sport Matin avec Total Mobile, l'assurance mobilité de Volkswagen, véhicule utilitaire.
5h09 à l'écoute de la première. Merci de nous accompagner ce matin encore. Un sujet grave ce matin, grave, sérieux mais nécessaire. Le 10 septembre dernier, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide. À cette occasion, Stop Suicide a lancé sa 7e campagne de sensibilisation, de prévention du suicide. On peut tous être le super-héros de quelqu'un, dit le slogan sur l'affiche de Stop Suicide. Une affiche diffusée dans 75 communes de Suisse romande. La prévention est la l'affaire de toutes et l'affaire de tous, pas seulement celle des professionnels, mais chacun, chacune peut aider un proche en difficulté. Anne-Marie Trabichet, bonjour.
Bonjour.
Anne-Marie Trabichet, coordinatrice de Stop Suicide à Genève. On va peut-être parler de votre campagne plus profondément, plus en détail dans la deuxième demi-heure, un peu vous découvrir en quelque sorte. J'ai lu sur le site de Stop Suicide que vous êtes né en 1983.
C'est juste.
Vous êtes donc jeune, on peut le dire, que vous occupez actuellement donc le poste de coordinatrice depuis le mois d'octobre 2009, ça fait quoi, 2 ans?
Ça fait 2 ans, oui.
Voilà. Et puis que vous avez effectué à Neuchâtel un bachelor en sciences de l'information, de la communication, histoire et histoire de l'art. Bon, brièvement dit, vous avez une formation de journaliste.
Oui, alors plus ou moins, c'est-à-dire qu'à l'université de Neuchâtel, c'est pas une formation pratique de journalisme, donc j'ai pas non plus, j'ai pas pratiqué énormément, mais oui, on peut dire quelque part que j'ai une formation en communication, disons.
Voilà, ça a changé hein, l'université de Neuchâtel, parce que maintenant il y a l'académie du journalisme avec des stages pratiques, donc depuis que vous avez quitté l'université, on forme des journalistes à l'université de Neuchâtel. Un intérêt donc souligné pour l'information, pour la communication.
Oui, pour la communication en général. J'étais très intéressée par le journalisme. J'ai fini par choisir un autre chemin, mais c'était plus la communication, le message, la transmission qui m'intéressait. Et puis c'est ce que j'ai eu aussi dans cette faculté. Et puis j'utilise maintenant d'une autre manière dans mon métier tous les jours, mais qui me sert beaucoup quand même. Oui.
Aujourd'hui, vous êtes installé à Genève. C'est un peu votre ville, Genève.
Oui, c'est ma ville. Je suis originaire de Genève.
Voilà. Mais pourquoi avoir quitté Genève pour Neuchâtel, précisément parce qu'il y avait cette faculté?
Alors parce qu'il y avait cette faculté. Donc c'est dans la faculté des lettres et sciences humaines, il y avait cet institut de journalisme. Journalisme et communication. Et puis je pense qu'il y a un moment donné où tout jeune a aussi besoin peut-être de partir un peu de la maison. Donc ça m'a offert cette possibilité-là.
Et il est vrai que l'université de Neuchâtel est un endroit assez agréable.
C'est très, très agréable.
Compte tenu de l'environnement, la ville n'est pas trop effervescente. Il y a de la place pour les étudiants, pour les loisirs. C'est presque un bout de campagne.
Hein, oui, c'est une petite ville qui a les avantages d'une petite ville sans en avoir trop les inconvénients. C'est très, très agréable. Et la faculté
Mais
de lettres,
pas du
c'est
tout
magnifique à côté du lac, sans les inconvénients. Alors pour les étudiants, c'est génial.
C'est vrai. Dites-moi, Anne-Marie Trabichet, comment une jeune femme comme vous s'intéresse tout d'un coup, se mobilise, se consacre au suicide? Parce qu'on imagine plutôt, bon c'est un lieu commun hein, je dirais, mais plutôt une personne âgée qui a eu le temps de peut-être penser aux tenants et aboutissants de la vie. Vous avez 28 ans, si je calcule bien.
Presque
28
Presque,
ans. Oui. Et déjà vous êtes depuis 2 ans maintenant mobilisée pour lutter contre ce mal qui affecte notre société, en particulier les jeunes. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer quelqu'un de plus âgé, mais à Stop Suicide, on a cette idée que la prévention du suicide des jeunes se fait par les jeunes. Donc, c'est un mouvement de jeunes qui a été créé à l'origine aussi par des jeunes qui étaient même beaucoup plus jeunes que moi, puisqu'ils étaient collégiens, ils avaient 16-17 ans. Et puis aujourd'hui, alors on est un petit peu moins jeunes que ça, mais on continue à penser que l'engagement d'un jeune pour cette cause-là, pour la prévention du suicide des jeunes, c'est un atout, vraiment. Au même titre que d'être médecin ou d'être spécialisé dans tel type de prévention, le fait d'être jeune est un atout pour faire la prévention du suicide des jeunes.
Et cela veut dire que vous allez voir les gens, vous avez des rencontres avec des personnes qui seraient susceptibles de passer à l'acte?
Alors pas directement, nous notre axe d'action disons, c'est que on va voir tout le monde en fait. Donc on va voir des jeunes, mais des jeunes j'ai pas envie de dire normaux parce que c'est un terme qui veut rien dire aujourd'hui, mais
ordinaire,
voilà, des jeunes dans leurs activités quotidiennes. Donc on va les voir dans leur centre de loisirs, dans leur maison de quartier, parfois on va les voir à l'école aussi, on va les voir dans leur cours de catéchisme, dans les foyers qui les accueillent, et puis on va discuter simplement avec eux. Le but c'est un peu de casser quand même un tabou qui est très très lourd dans ce sujet, qu'il est moins chez les jeunes quand même que chez les adultes étonnamment, et puis de discuter, d'ouvrir un petit peu cette discussion qu'on n'a pas souvent l'occasion d'ouvrir autrement avec la famille ou autre, et puis de voir un peu ce que les jeunes ont à en dire et de nous, de leur transmettre nos messages de prévention, qui ne sont pas des messages très compliqués, mais qu'ils n'ont pas l'occasion d'entendre beaucoup sinon.
Mmh. Mais vous parlez de tabou, c'est vrai que peut-être, je ne sais pas, le poids de la religion, le poids de la morale, il n'y a pas si longtemps encore, quelqu'un qui se donnait volontairement la mort. Enfin, quand on dit volontairement, il faut aussi nuancer, hein, parce qu'il y a des étapes psychologiques qui font que ce n'est pas forcément volontaire comme on peut le penser. Enfin voilà, c'était véritablement un tabou. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les mentalités changent et qu'on est mieux à même, peut-être mieux armé pour en parler plus librement?
Je pense qu'il y a des mentalités qui changent petit à petit. C'est long parce que c'est un sujet qui est encore très... D'abord, il est la victime de beaucoup de préjugés, d'idées fausses, surtout chez les adultes, un peu moins chez les jeunes, mais c'est vrai que ça change un peu. On sent là, ça fait 10 ans avec Stop Suicide qu'on travaille. Moi, comme vous l'avez dit, ça fait que 2 ans que je suis là, mais je vois un petit peu le passé aussi de l'association. Ça fait 10 ans que Stop Suicide travaille à changer ses mentalités et on voit quand même un changement. Et chez les jeunes, on voit qu'il y a de moins en moins de difficultés à en parler, en tout cas à aborder le sujet. Mais ils n'ont pas l'occasion de l'aborder dans d'autres sphères de leur vie parce que c'est les adultes en fait autour d'eux qui ont du mal à aborder le sujet.
Et puis le suicide, on ne le dira jamais assez, ça touche tout le monde, hein, et parfois même sans préavis, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent comme ça se donner la mort sans avoir donné des signes précurseurs auparavant. Donc ça peut toucher tout le monde, toutes les classes sociales, tous les âges, et donc précisément c'est pour cette raison que vous en parlez au plus grand nombre.
Voilà, c'est aussi un des messages qu'on essaie de transmettre, un des tabous qu'on essaie un des préjugés qu'on essaie de casser, qui est que oui, le suicide peut toucher tout le monde. C'est pas réservé à une certaine classe de population, aux chômeurs ou aux jeunes en difficulté ou aux personnes qui souffrent d'addiction. C'est vrai que ce sont des facteurs de risque, mais de manière générale, tout le monde peut être touché à n'importe quel âge, évidemment, dans n'importe quelle étape de vie aussi. Et nous, on essaie de dire que voilà, en effet, il y a des fois, il y a des signes, on peut voir des choses, on peut repérer. Il y a ce qu'on appelle la détection du risque suicidaire où il y a des signes à observer. Des fois, on les voit pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir.
Anne-Marie Trabichet, coordinatrice de Stop Suicide à Genève. Et il est 5h16. L'actualité nous rattrape un peu. C'est tout à fait fortuit. Vous avez entendu que nous attendions d'une minute à l'autre l'exécution de Troy Davis aux États-Unis. Eh bien voilà, une information, une dépêche de dernière minute nous l'apprend. Troy Davis donc a été exécuté. La Cour suprême a rejeté sa demande de suspension formulée par ses avocats. On rappellera donc que l'État de Géorgie avait retardé cette exécution pour permettre aux avocats cas de Troy Davis de se prononcer sur une demande de suspension déposée par ses avocats qui affirmaient détenir de nouvelles preuves de l'innocence de leur client. Troy Davis jouissait de l'appui de nombreuses personnalités comme l'ancien président américain Jimmy Carter, le pape Benoît XVI ou l'actrice Suzanne Sarandon. Des centaines de manifestations avaient eu lieu un peu partout dans le monde, même la France, le ministère des Affaires étrangères était intervenu. Tout cela a été inutile. C'est vrai que, bon, je ne vais pas vous demander de commenter, mais il est vrai que parfois la procédure, hein, on ne va pas se prononcer sur le fond, mais la procédure et la manière aux États-Unis, après 20 ans, cet homme a attendu 20 ans dans le couloir de la mort, ça peut paraître assez cruel.
Je crois que c'est un pays qui a encore beaucoup à faire dans beaucoup de domaines.
Oui, comme beaucoup d'autres
comme
pays
beaucoup d'autres,
d'ailleurs.
Mais...
Oui, c'est vrai. Il est 5h17 minutes. Vous écoutez la première et nous sommes en compagnie de Anne-Marie Trabichet, coordinatrice de Stop Suicide à Genève.
Plus grand chose, tu sais, on ne croit plus aux adages du temps qui effacera les crevasses, qui ramassera la crasse au fond. Qu'est-ce qui nous sonne au moment de s'y croire? Qu'est-ce qui nous traîne dans la poussière? Je ne connais pas les aveux, je me fous des adieux au fond. Bang, 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 il faut du courage. Bang, 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 encore du courage. Bang, 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 il faut du courage. Bang, 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 encore du courage pour encaisser. Je ne suis pas de ce pays, je ne connais rien ici au fond. Bang, 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 il nous faut du courage. Bang, 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 encore du courage. Bang, 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 il nous faut du courage. Bang, 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 encore du courage pour encaisser. Rien n'en vaut la peine, même si l'on part et que l'on n'a pas de veine. J'aimerais que tu saches voudrais tout en l'air, sans fin. On envisage plus grand chose, tu sais. On ne croit plus aux adages du temps qui effacera les crevasses, qui ramassera la crasse au fond.
Bang, 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 c'était Claire de Namur, un titre de son nouvel album Vagabonde qui vient tout juste de sortir, nous apprend notre programmateur qui s'appelle François Piton. 5h21.
Les petits matins.
Juste le temps encore de vous rappeler cette information de dernière minute. Donc Troy Davis, condamné à mort pour le meurtre d'un policier en 1989, a été exécuté il y a quelques minutes par injection dans une prison de Jackson, en Géorgie, peu de temps après le rejet d'un ultime recours par la Cour suprême des États-Unis. Nous sommes maintenant en décalage horaire avec Caracas, la capitale du Venezuela. Bonjour François-Xavier Frolland.
Bonjour à vous.
Alors au Venezuela, vive polémique hein, au sujet d'un potentiel adversaire à Hugo Chavez pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu en octobre 2012. Leopoldo López, c'est son nom, est poursuivi pour des cas de corruption. Il était jusque-là interdit par les autorités vénézuéliennes de se présenter aux prochaines élections. Mais voilà, la Cour interaméricaine des droits de l'homme en a décidé autrement. Alors vous allez nous en dire plus.
Oui, ce tribunal qui est basé au Costa Rica a remis Leopoldo López un petit peu dans la course à la présidentielle qui aura lieu en octobre 2012, considérant eh bien, que une enquête de la justice vénézuélienne en cours n'était pas un obstacle à cette candidature. Alors Leopoldo López est poursuivi par la justice vénézuélienne pour des faits qui remontent aux années 1998-2001. On l'a accusé d'avoir reçu au nom d'une organisation qui dirigeait à l'époque des dons de l'entreprise nationale de pétrole PDVSA, une entreprise où sa mère travaillait. Alors aujourd'hui, ce leader de l'opposition, qui est un économiste de formation, qui vient tout juste d'avoir 40 ans, dirige un petit parti d'opposition qui s'appelle Volonté Populaire. Aujourd'hui, il nie toutes ces accusations et crie à la manipulation politique. Il s'avère qu'en 2006, lors des dernières élections présidentielles, il avait déjà été écarté de la course pour à peu près les mêmes raisons. Et bien aujourd'hui, en tous les cas, dans la foulée de cette décision du tribunal de Costa Rica, et bien Leopoldo López a d'ores et déjà annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle.
Alors dites-moi, François-Xavier Frolland, j'imagine que la décision de la Cour internationale n'a pas dû beaucoup plaire au camp du président Chavez.
Non, effectivement, avant de s'envoler vers Cuba pour sa quatrième séance de chimiothérapie, vous savez que Hugo Chavez est très malade hein, d'un cancer, eh bien, le président vénézuélien n'y est pas allé de main morte, estimant, selon ses propres mots, que cette cour protégeait la corruption et obéissait aux ordres des États-Unis et de l'opposition vénézuélienne. Pour Chavez, la décision de ce tribunal n'a aucune légitimité et donc nulle et non avenue. Une décision politiquement biaisée, donc selon les autorités de Caracas, qui disent se ranger pour leur part derrière le verdict de la Cour suprême du Venezuela, qui devrait trancher incessamment sous peu sur ce dossier.
Alors, est-ce que la justice vénézuélienne peut ou non donner raison à Leopoldo López? Je ne sais pas, la justice vénézuélienne est peut-être elle aussi à la botte de Chavez.
Bah, c'est tout le problème pour l'opposition. La justice vénézuélienne n'est plus objective depuis longtemps et cette opposition s'attend à un avis défavorable. Leopoldo López sera certainement inquiété. En tous les cas, l'affaire traîne depuis des années et en rappelle d'autres. Avant Leopoldo López, Manuel Rosales, l'ancien gouverneur de l'État de Zulia, qui est un peu le fief de l'opposition, eh bien, cet ancien adversaire à Hugo Chavez lors de la précédente présidentielle a dû prendre la fuite lui aussi après avoir été inquiété pour des faits similaires de corruption. Il vit actuellement en exil au Pérou. Maria Corina Machado, qui est une candidate aussi en lice pour les primaires de l'opposition, a connu elle aussi des soucis avec la justice. Bref, pour l'opposition, Chavez cherche à éliminer par voie judiciaire tous ses ennemis. Une justice à deux vitesses, selon elle, dans un pays extrêmement politisé et corrompu. Et c'est clair que si Leopoldo López revenait dans la course à la présidentielle, cela gênerait considérablement les plans du président Chavez, qui certes reste à l'heure actuelle toujours populaire, mais dont la cote de popularité s'est un petit peu effritée ces dernières années à cause de la vie chère, des problèmes de logement et puis bien sûr de l'insécurité.
Oui, puis il singularise aussi sur le front diplomatique international, puisque Chavez continue à apporter par exemple son soutien à Kadhafi, ce qui est de nature quand même à nous surprendre un petit peu ici. C'est bien ça, François-Xavier Frelin.
Oui, Hugo Chavez continue d'être un des derniers alliés de Muammar Kadhafi, et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant vu que ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours, et bien à peu près tous les pays du monde et notamment en Afrique se sont ralliés à la cause des opposants à Kadhafi.
Ouais, sans doute faut-il y voir une nouvelle manifestation de son anti-américanisme de base, basique. Je vous remercie beaucoup, François-Xavier Frelin. Vous souhaite une bonne nuit du côté de Caracas et à bientôt sans doute. Au revoir.
Au revoir.
Le dimanche en Suisse romande, c'est le jour du bouillon. Épicé, pimenté, savoureux ou amer, c'est l'actu de la semaine qui donne au potage le goût du jour. Le grain de sel, c'est notre invité qui l'ajoute. La soupe se mitonne tout au long de la semaine pour vous être servie le dimanche en direct et en public du studio 15 de la Première à Lausanne. La soupe, avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.
Voilà, nous sommes ce matin avec Anne-Marie Trabichek, coordinatrice de Stop Suicide à Genève. C'est vrai, on se disait, Anne-Marie Trabichek, la vie est un peu comme la radio, hein, c'est-à-dire qu'on annonce des exécutions aux États-Unis, on parle de suicide ce matin, c'est un sujet grave, on parle de l'opposition à Caracas, au Venezuela, puis poète, la soupe, donc une petite promotion. La vie va ainsi, hein, il y a des contrastes, on passe du sourire aux larmes.
Oui, c'est comme ça que ça se passe, puis ça permet aussi peut-être un peu de relativiser, de pas être tout le temps dans le sécurité, et puis de passer un peu à quelque chose de plus léger, je pense.
Absolument, mais c'est aussi indispensable, je pense, à l'âme humaine. Pour en revenir à vous, Anne-Marie Trabichet, donc coordinatrice de Stop Suicide à Genève, je lisais les statistiques qui sont affichées sur votre site internet. On y apprend qu'environ 1300 personnes mettent fin à leur jour chaque année ici en Suisse. Parmi elles, 120 jeunes entre 15 et 24 ans. Je crois que la Suisse est un des pays où, je ne sais pas si on peut le dire comme ça décemment, mais où on se suicide le plus.
Alors en Europe, c'est un pays qui est dans les premiers, oui. Après, quand même, les pays d'Europe de l'Est, même si on les appelle plus comme ça, la Russie, la Lituanie notamment, qui sont des pays avec des très très forts taux de suicide. Sinon, c'est vrai que droit derrière ces pays-là, on trouve très vite la Suisse. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que la Suisse figure parmi les pays où, ma foi, on se donne la mort le plus, statistiquement en tout cas? On peut imaginer quand même, on est dans un pays relativement prospère, il y a quand même, je dirais, un entourage, des assurances sociales, une certaine sécurité. Pourquoi, selon vous, ici, plus qu'ailleurs, plus en tout cas que dans des pays plus pauvres?
Ouais, alors c'est vrai que c'est toujours des chiffres qui choquent beaucoup les observateurs étrangers, qui ne comprennent pas comment c'est possible qu'en Suisse on ait des taux de suicide comme ça. Les raisons, malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne peux pas vous les donner en détail. En tout cas, je pense qu'il y a
l'individualisation peut-être de la société. C'est vrai que nos sociétés changent beaucoup, les gens sont beaucoup plus seuls. On parle aussi beaucoup plus de solitude aujourd'hui. Et il est peut-être, de dépression, par exemple. Y a-t-il peut-être un lien de cause à effet, selon vous?
Alors, je pense qu'il y a clairement en Suisse et dans les pays avec un niveau de vie, comme vous le disiez, qui est quand même très haut. Je pense qu'on a aussi des standards de vie sociaux, professionnels, familiaux qui sont très très élevés dans un pays comme celui-ci et qui peut-être placent la barre très haut et que quand on n'arrive pas à atteindre cette barre-là, on se retrouve dans une situation d'échec qui peut entraîner après tout un tas de choses, que ce soit la dépression, que ce soit peut-être une addiction ou autre chose. Donc ça peut être une des raisons, mais les causes du suicide profond sont toujours multiples et très complexes.
Oui, 120 jeunes chaque année qui se donnent la mort entre 15 et 24 ans, ça c'est considérable, c'est effrayant quelque part.
C'est énorme, ça fait un jeune tous les 3 jours à peu près en Suisse. Mmh. ce qui est un chiffre...
Et c'est quelque chose dont on parle très peu, parce qu'évidemment, on ne donne pas les suicides dans les journaux télévisés ou à la radio ou dans les journaux. C'est quelque chose qui relève encore, non pas du tabou, mais c'est simplement de la pudeur, parce que c'est un acte le plus souvent privé.
En ce qui concerne les médias, c'est vrai qu'il y a d'autres règles qui régissent le traitement du suicide, c'est-à-dire que c'est quelque part une bonne chose que les suicides de cas individuels ne soient pas relatés en détail à chaque fois qu'il y en a un qui arrive. Mais c'est vrai que ce dont on pourrait parler plus et dont on ne parle pas assez, c'est la prévention. Il y a beaucoup de choses qui se font et on n'en parle pas assez.
Alors, on va en parler tout à l'heure, Anne-Marie Trabichet, vous êtes là pour ça. Donc, une nouvelle campagne, votre 7e campagne de sensibilisation et de prévention du suicide. On en parle après le journal. Il est 5h30 à l'écoute de la première. C'est le journal donc avec Laurence Milasevic.
Cette fois, c'est fini pour Troy Davis. Le condamné à mort a été exécuté il y a une vingtaine de minutes à la prison de Jackson dans l'État de Géorgie. Un appel de dernière minute a retardé le moment fatal. La Cour suprême des États-Unis a délibéré pendant 4 heures. Elle a finalement décidé de ne pas empêcher cette exécution. Les centaines de manifestants qui patientaient devant le pénitencier se sont rassemblés en silence. Troy Davis était devenu un symbole de la lutte contre la peine capitale. On ne saura jamais s'il a commis ou non le meurtre dont on l'a accusé. Quelques heures plus tôt, Barack Obama a expliqué qu'il n'interviendrait pas dans ce dossier, la procédure relevant de l'État de Géorgie et non du pouvoir fédéral. Barack Obama qui a quitté New York hier soir, il y a vécu un véritable marathon diplomatique ces 2 derniers jours. Le président des États-Unis ne s'est pas exprimé sur le plan de Nicolas Sarkozy dans le dossier palestinien. Le président français propose que la Palestine occupe un statut intermédiaire d'État observateur à l'ONU sur le modèle du statut dont jouit le Vatican. L'accord fiscal entre la Suisse et l'Allemagne a été signé hier à Berlin. Elwin Wimmerschlumpf et son homologue allemand Wolfgang Schäuble ont apposé leur paraphe. Le texte met un terme à un conflit fiscal de près de 20 ans. Il règle l'imposition des fonds illégaux déposés dans les banques suisses par les Allemands. Pour être définitif, cet accord doit encore être ratifié par les parlements des 2 pays. Le conseiller national PLR genevois, Christian Lucher, n'est pas moins enthousiaste pour autant.
Ce type d'accord, nous le prônons depuis fort longtemps. À contre-courant, on nous a dit qu'on était fous. Donc effectivement, on est très contents. Le pragmatisme finit par triompher. Lorsque on est fort et qu'on veut mener des relations bilatérales avec chaque pays de façon séparée, on voit que c'est encore un système qui marche très bien.
L'Allemagne peut aussi attendre 2 ans avant de changer de stratégie, puis revenir par exemple à l'échange automatique d'informations après avoir connu le nom des clients et récupérer les contreparties que les banques auront payées. Est-ce qu'il faut faire attention de ne pas se réjouir trop vite ?
Vous vous posez la question de la bonne façon. Il faut faire effectivement attention de ne pas se réjouir trop vite et ça signifie que non, on ne s'est pas réjoui trop tôt. Donc on reste modeste, on reste humble, on avance dans les négociations et le jour où toutes les autorités des 2 pays auront signé, validé et ratifié cet accord, alors ce jour-là, oui, on pourra marquer notre grande satisfaction.
Des propos recueillis par Christian Favre. Une femme de 34 ans, Sylvie Boula, prend la tête du service pénitentiaire vaudois. Elle prendra ses fonctions le 15 novembre prochain, succédant à Denis Froidevaux qui avait assuré l'intérim après le décès du détenu Skander Vogt. Hier encore, le Conseil des États est entré en matière sur la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Le Conseil fédéral veut opposer un contre-projet indirect à l'initiative populaire qui vise à instaurer un moratoire sur les zones à bâtir pendant 20 ans. L'UDC s'y est opposée. Écoutez le conseiller national UDC vaudois Guy Parmelin.
On met les cantons vraiment sous tutelle. On leur impose non seulement une taxe sur la plus-value, mais comment est-ce qu'ils vont devoir gérer l'aménagement du territoire ? Pour moi, c'est contraire, si ce n'est à la forme de la Constitution, aux compétences de la Constitution de nos cantons, mais c'est contraire en tout cas à l'esprit. Le Conseil national, à ma grande surprise, à une assez nette majorité quand même, a suivi les cantons, a supprimé ces articles relatifs aux taxes sur la plus-value, ce qui fait qu'il y a une grosse divergence naturellement avec le Conseil des États. C'est une victoire d'étape, je crois, pour le fédéralisme, pour les cantons, et pour leur laisser les compétences d'agir en matière d'aménagement du territoire. À ce stade-là, on n'a pas terminé l'étude du dossier, mais il se présente déjà mieux qu'auparavant.
Guy Parmelin avec Pierre Yenny et le Conseil national poursuivra les débats sur ce contre-projet le 29 septembre. Albert Bachmann est un indépendant et tient à le faire savoir. Hier encore, syndic d'Estavayer-le-Lac, il était encore député radical de la Broye. Aujourd'hui, il démissionne de son mandat de député avec effet immédiat et annonce son intention de se lancer seul dans la course aux élections pour le Conseil d'État fribourgeois. Un sacré défi, l'analyse de Pierre Berset.
Seul, sans parti, sans alliance, Albert Bachmann devient le 12e candidat au Conseil d'État fribourgeois. L'ex-député radical va se présenter en indépendant pour concrétiser son rêve, s'asseoir sur le fauteuil de Pascal Corminboeuf, autre indépendant d'envergure qui s'est imposé devant le verdict du peuple durant 3 législatures, sans troupes ni relais au Parlement. C'est là que s'arrête la comparaison. Celui qui reste syndic d'Estavayer-le-Lac porte sur lui l'étiquette de dissident pour n'avoir pas accepté le verdict populaire de l'Assemblée des délégués de son parti. Avant de gagner sa qualité d'indépendant, il sera d'abord un candidat contre le Parti radical. Mais dans une compétition où les places sont comptées, avec seulement 2 sièges vacants sur 7, Albert Bachmann devra désigner clairement ses adversaires. L'agriculteur Broyard devra surtout dire s'il combat le candidat de l'UDC, agriculteur comme lui, ou tout simplement ses ex-collègues de parti et concurrents légitimes des radicaux. Exploit, pour franchir l'écueil du premier tour, il devra nouer des ententes tacites. À droite, mais avec quel parti ?
Lausanne Sport et Neuchâtel Xamax en déroute, l'un à Bâle et l'autre à Berne, n'ont pas porté haut les couleurs du football roman lors de la 9e journée de l'Axpo Super League. Lausanne s'est vu infliger un 6-0. Xamax affiche lui un 4-1 face à Young Boys. Ce revers sans appel risque de susciter une nouvelle grogne auprès de Boulat Tchagaïev. En cyclisme, le héros du jour a été hier Tony Martin. Fabian Cancellara ne remportera donc pas un 5e titre de champion du monde du contre-la-montre. Cette année, le Bernois a terminé 3e à Copenhague, à 1 minute 20 secondes du vainqueur, donc Tony Martin, qui a roulé, lui, à plus de 51 km/h.
C'était le journal de Laurence Milasevic. Retour de l'actualité à 6h avec un nouveau journal. Retour de Laurence Milasevic à 6h30 également avec un nouveau journal. Il est 5h36, c'est l'heure de la météo avec Sébastien Dupéret.
Des bancs de brouillard se sont formés en fin de nuit en plaine, mais ils devraient rapidement se dissiper pour laisser la place à un temps bien ensoleillé. En Ajoie, toutefois, les passages nuageux pourront parfois être denses, mais ils n'entraîneront pas de précipitations. Les thermomètres affichent environ 7 degrés en ce moment, et cet après-midi, ils grimperont jusqu'à 20 degrés sur le plateau et 23 en Valais centrale. Demain, nous retrouverons des conditions très semblables, avec toujours un peu de grisaille en matinée, et sinon un temps bien ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 20 et 24 degrés. Ce week-end s'annonce légèrement plus perturbé, les cumulus pourront parfois se faire un peu envahissants sur les reliefs, surtout dimanche, mais le temps restera tout de même assez ensoleillé. Ces conditions généralement stables et douces se maintiendront en début de semaine prochaine.
L'invitée des petits matins s'appelle Anne-Marie Trabichet, elle a 28 ans, elle est coordinatrice de Stop Suicide à Genève.
Les petits matins, Georges Pop.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet difficile hein, pour les petits matins, mais enfin, il y a des aspects, dirons-nous, positifs ou plutôt encourageants, et puis les aspects que l'on connaît, qui sont un peu attristants, eh bien c'est 1300 personnes qui mettent fin à leur jour chaque année, dont près de 120 jeunes entre 15 et 24 ans, ici en Suisse, c'est énorme. Donc, vous avez décidé de lancer, Anne-Marie Trabichet, votre 7e campagne de sensibilisation et de prévention du suicide ce mois-ci, avec, je dirais, un slogan assez positif, presque souriant, on peut tous être le super-héros de quelqu'un. Vous allez nous expliquer ce slogan.
Oui, alors nous, c'est vrai qu'à Stop Suicide, on a un peu une idée de la prévention qui est une idée de la prendre par le côté positif. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire la prévention sur les facteurs de risque. Nous, on choisit de faire la prévention sur ce qu'on appelle les facteurs de protection. Donc pour nous, l'entourage, c'est un des plus gros facteurs de protection chez une personne qui pourrait être amenée à commettre un geste suicidaire. Et notre message, c'est de dire qu'on peut tous aider. Alors évidemment, le super-héros, il faut le prendre un petit peu au second degré. Hein. On ne dit pas qu'on est tous censés être Superman et sauver tout le monde de tout ce qui peut leur arriver dans leur vie. L'idée, c'est de dire que la prévention du suicide, aider quelqu'un qui pourrait se suicider, c'est pas forcément quelque chose que uniquement un médecin ou uniquement un psychiatre peut faire. C'est d'abord et surtout l'entourage qui peut voir, déceler des signes inquiétants. Et puis ensuite, prendre contact directement avec la personne en posant des questions directes. Ne pas avoir peur de parler d'idées suicidaires, et puis ensuite en évaluant un petit peu le risque ou le danger suicidaire, de relayer, surtout relayer, ne jamais rester avec une confidence comme ça pour soi-même, la relayer, soit à quelqu'un d'autre, ça dépend si c'est de jeune à jeune, ça peut être un parent, un autre adulte, ou alors à des structures adaptées, des professionnels, ou un médecin, une infirmière scolaire, voilà.
Alors au-delà du slogan, comment agir? Car en définitive, on le sait bien, si on prend par exemple le cas de la dépression. Il suffit pas de dire à quelqu'un, allez, il faut te secouer, il faut. Non, c'est très difficile. Donc, comment agir si on a l'impression que quelqu'un, un proche, est sur le point de commettre ou pourrait commettre quelque chose d'irréparable, franchir ce pas fatal?
Alors c'est vrai qu'on a, il y a un petit peu ces vieilles choses comme ça qu'on dit, qui ont un peu la vie dure, comme ça va passer, ça ira mieux, c'est pas grave, c'est une phase. Voilà, ça c'est un petit peu ce, nous ce qu'on dit qu'il à éviter. Donc nous on est vraiment plutôt partisans de la prise de contact direct, d'aller poser des vraies questions. Voilà, est-ce que ça va mal, est-ce que tu penses à la mort, est-ce que tu as pensé peut-être à comment te suicider, est-ce que tu as élaboré quelque chose, un plan dans ta tête,
frontalement.
Ça permet d'abord de permettre à la personne de l'exprimer, que oui, il ou elle a pensé à la mort, à se suicider. Et puis ensuite, ça permet surtout de relayer, de s'adresser à quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui peut vraiment aider la personne. C'est-à-dire que tout le monde, comme je le disais, tout le monde peut le faire, mais qui peut ensuite l'aider d'un point de vue professionnel. Et puis surtout, comme je disais, ne pas rester avec ça.
Bon, la difficulté demeure, hein, dans la mesure où, dans certains cas, on peut voir des signes avant-coureurs. Dans d'autres, c'est beaucoup plus difficile. On a l'exemple de personnes, par exemple, qui font leurs courses et puis qui passent sur un pont. Et peut-être même elles n'y pensaient pas avant d'arriver sur le pont. Et le pont sert en quelque sorte de déclic. Et donc là, on est dans des situations où la prévention devient véritablement très très difficile.
Alors c'est vrai que la méthode de suicide à disposition est un gros facteur de risque, c'est-à-dire que ça déclenche le passage à l'acte. Après, c'est vrai qu'il y a des signes, soit on les voit pas, soit il n'y en avait pas, c'est vrai. Mais souvent, c'est qu'on les voit pas. On n'est pas non plus éduqué à voir ces signes, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut regarder. Le suicide étant un sujet tabou, on ne nous éduque pas, en fait, à la prévention du suicide. Il y a des choses qu'on peut observer, il y a des comportements.
On se cache les yeux.
On se voile un peu la face, oui. Et puis même, on ne sait pas. C'est aussi beaucoup de l'ignorance, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. Il n'y a pas de prévention à l'école, il n'y a pas de prévention même de manière générale. Donc on ne peut pas non plus savoir qu'est-ce qu'il faut observer. On ne peut pas le voir si on ne sait pas ce qu'il faut regarder.
Lorsque vous approchez les gens et que vous dites que vous appartenez, que vous êtes coordinatrice de Stop Suicide, est-ce que parfois il y a un mouvement de répulsion parce que ça fait peur, parce qu'on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on veut passer à autre chose?
Alors ça m'est arrivé, des gens qui m'ont dit un peu « oulala, non, le suicide, moi je ne veux pas en parler ». Sinon les gens sont plutôt inquiets pour moi en général, me demandent « mais ça va, c'est pas trop difficile ». Moi je leur réponds que non, parce que d'abord c'est un travail qui est très très stimulant. Nous on fait des campagnes, justement on prend le, comme je vous le disais, le point de vue un peu positif.
Vous attaquez par la lumière, non, voilà, pas par l'obscurité.
C'est ça, et puis on a une équipe de jeunes, et puis on a des messages forts, positifs, qu'on essaie de faire passer, et puis c'est plus stimulant en fait.
Alors pour en revenir à cette campagne, donc 75 communes romandes ont reçu vos affiches sur le thème « On peut tous être le super-héros de quelqu'un ». Je vais poser une question peut-être embarrassante. J'ai vu au début de cette semaine que Pro Juventute lançait de son côté une action de prévention contre le suicide. C'est en coordination avec vous ?
Alors non, il n'y a pas eu de coordination au niveau de ces deux campagnes qui arrivent. C'est vrai, un peu l'une
vous
après l'autre.
Vous avez été surpris, je suppose.
On était un peu surpris.
Excusez-moi, oui.
À Stop Suicide, on était un peu surpris. C'est vrai, parce qu'on n'avait pas du tout connaissance de cette campagne qui arrivait. Et c'est vrai qu'il est très différent de ce que nous, on fait depuis 10 ans. C'est vrai que nous, ça fait maintenant, vous le disiez, c'est la 7e campagne. Ça fait longtemps qu'on réfléchit sur comment on peut faire une campagne de prévention, quels sont les messages à faire passer, qu'est-ce qu'il faut aussi éviter de montrer, de faire passer. Et c'est vrai que nous, c'est pas la façon dont on l'aurait fait. Après, le numéro 147 de Pro Juventute, c'est un numéro important que nous-mêmes on relaye. Donc je pense qu'il n'y a jamais assez trop d'informations à ce niveau-là, au niveau des numéros qui peuvent être utiles aux jeunes.
Ouais. Mais peut-être un petit effort de coordination aurait pu être fructueux. Enfin, voilà. On ne va pas polémiquer, nous ne sommes pas là pour ça. Vous ne vous contentez pas de mener des campagnes, de rencontrer des gens, d'essayer de sensibiliser, vous essayez aussi d'agir sur le terrain. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais un renforcement de la prévention sur les ponts, dites-vous, permet de diminuer le nombre de suicides. Alors précisément, vous militez pour que l'on rehausse les barrières. Là, on parlait parfois de suicides comme ça spontanés que provoquait le passage sur un pont. C'est utile de faire en sorte que, oui, les ponts ne soient pas des sortes d'incitations.
Alors oui, le suicide, c'est en fait une crise suicidaire. Donc au moment de la crise suicidaire, le fait d'avoir une méthode de suicide à disposition pour le passage à l'acte, ça crée un déclenchement. Ça peut être ce pont, justement cette personne qui est en crise suicidaire, qui passe sur ce pont, ou qui l'a à côté de chez elle, donc qui n'est pas protégée. Rien que le fait de l'avoir à disposition, ça peut provoquer un passage à l'acte. Et si ce pont, on a l'impression que c'est un peu facile, hein, de [S2] Oui. [S1] Se dire, il suffit de rehausser les barrières. Et en fait, oui, c'est facile, c'est ça. En fait, fait le paradoxe.
Ça
coûte un peu d'argent, mais c'est pas non plus faramineux. C'est pas si compliqué à mettre en place. Et
d'ailleurs,
puis
on l'a fait sur les ponts qui surplombent les autoroutes pour protéger les automobilistes. Ça n'a rien à voir avec le suicide, de ceux qui jettent des objets contendants pour jouer avec la vie des automobilistes.
Voilà. Alors souvent aussi le paradoxe, c'est qu'on protège les ponts pour protéger ceux qui sont en dessous, des gens qui tombent. Donc ça, c'est un petit peu. Nous, on aimerait que ça se fasse dans l'autre sens.
C'est un peu cynique.
Mais c'est vrai que il y a un aspect dissuasif vraiment dans le fait de mettre une barrière. La personne qui voit la barrière ou qui voit le filet ou autre, c'est vrai qu'on pourrait l'enjamber, la contourner, tomber sur le filet puis retomber ensuite. Mais ça crée des biais, en fait. Ça crée des filtres que la personne ne franchira pas forcément parce que il y a plus cette immédiateté.
Anne-Marie Trabichet, coordinatrice de Stop Suicide, donc, à Genève, mais vous œuvrez sur l'ensemble de la Suisse romande et même de la Suisse. Un objet quand même de tristesse pour vous, de déception en tout cas cette année, puisque on vous a beaucoup vu, on vous a beaucoup entendu lors de l'initiative populaire pour la protection face à la violence des armes, œuvrer, parler en faveur de cette initiative, et puis ma foi, les Suisses l'ont rejetée. Alors pour vous, c'était une source de déception.
C'était une grande déception, oui, parce que d'abord parce qu'on a quand même beaucoup fait campagne avec nos moyens qui sont assez limités en tant qu'association, on n'était pas non plus les seuls de ce côté-là, mais une déception surtout parce que ça aurait été vraiment un moyen utile et efficace de faire de la prévention du suicide. On le sait, on n'a pas été les seuls en Suisse à dire ça comme si ça venait de nulle part. C'est des mesures qui ont été mises en place ailleurs, dans d'autres pays d'Europe.
Oui, d'ailleurs, même certains corps de police étaient favorables à cette mesure. Mais le poids peut-être de la tradition, le poids peut-être aussi, je ne sais pas, comme aux États-Unis, d'un certain lobby. Mais disons, je pencherais davantage pour ce qui me concerne, pour la tradition. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même.
Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup joué dans cette votation. Le fait qu'en Suisse, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à l'armée, ce qui n'est pas un défaut.
L'arme a longtemps été le symbole de la citoyenneté. Ici.
C'est ça. J'ai beaucoup entendu ces arguments de citoyen soldat et aussi repris par tous les côtés de responsabilité civile. On a l'impression que donner une arme à quelqu'un, c'est lui donner de la responsabilité. C'est pas ma vision de la responsabilité, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on a entendu. Oui.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de, je ne sais pas si on peut parler de succès, mais de réussite, en tout cas dans cette campagne que vous entreprenez, avec peu de moyens, il est vrai, mais beaucoup, beaucoup d'énergie, vous le dites vous-même. Ça peut paraître comme ça un peu surprenant pour les gens qui nous écoutent, mais au sein de Stop Suicide, il y a énormément de jeunes. Ce sont les jeunes, ce ne sont pas des personnes établies, ce sont des jeunes, ils donnent de l'énergie, ils sont bénévoles et ils donnent énormément d'eux-mêmes pour lutter sur ce front.
Oui, alors on a une équipe de jeunes, vraiment, on a entre 19 et 30 ans. C'est vraiment nous-mêmes, c'est cette équipe de jeunes qui lançons la campagne, qui l'organisons, qui concevons les messages. Et c'est vrai qu'on fait ça avec les moyens. On a des soutiens, on n'est pas non plus complètement démunis. On a des soutiens qui sont très précieux et qu'on remercie toujours. Mais c'est vrai que c'est beaucoup le travail de cette équipe.
Voilà, puis d'ailleurs on peut découvrir l'ensemble de vos activités sur votre site internet. Nous mettrons le lien sur notre propre site. Et puis vous soutenir naturellement, soit financièrement en faisant un petit geste, soit par l'action quotidienne.
Exact.
C'est ce que vous voulez inspirer aussi. Il est 5h47.
Passer le zénith, je suis un peu à l'ouest de l'Éden, et quitte que quitte pour le temps qu'il me reste. Je m'égrène. J'étais supposé rester quoi aux appels de bichots à bois, à leur joli corps d'olifante. J'étais censé rester de marbre, prendre racine au pied d'un arbre, sans jamais dévaler la pente. Que faire de ma peau sinon la vendre à la demande, et je m'en vais dans la mer zone chercher un boulot à mi-temps, dresseur de fauves et d'amazone et feuilleur de roses des vents, dealer de barils de poudre pour petites filles aux allumettes, me noyer dans un dé à coudre à la sauvette, passer le zénith. Je suis un peu à l'ouest de l'Éden, et quitte que quitte pour pour le temps qu'il me reste. Je m'égrène. J'étais censé rester stoïque, ne pas dériver de l'orbite, à peindre la queue des comètes. J'étais supposé à volo m'en tenir aux points cardinaux, ne pas jouer les girouettes. Que faire de ma peau sinon la vendre au plus offrant à la demande. Et je m'en vais dans la mer zone chercher un boulot à mi-temps, dresseur de fauves et d'Amazone et feuilleur de roses des vents. Un nouvel homme né sous X, sniffeur de lignes pour vol low cost, brasseur de cendres et de phénix et de low cost.
Voilà, vous avez sans doute reconnu Pascal Rinaldi, Rinaldi passer le Zénith. Je vous signale qu'il sera en concert ce soir, donc ce soir 22 septembre, dans le cadre du festival Chansons en stock à Zurich, un festival qui est dédié à la chanson francophone, ce qui est bien à Zurich.
Les petits matins, Georges Pop.
6h10, et à la demande de notre invité Anne-Marie Trabichet, nous faisons sonner notre réveil matin chez le professeur Jean-Louis Terra, professeur de psychiatrie à l'université de Lyon 1. Bonjour professeur.
Bonjour.
J'espère que vous n'êtes pas trop fâché d'entendre sonner le téléphone à 6h10. Enfin, vous savez, professeur, que nous parlions de la prévention du suicide avec Anne-Marie Trabichet. Or, il se trouve, nous apprend-elle, que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, que vous avez même développé des modules de formation pour impliquer tout un chacun dans la détection du risque suicidaire.
Oui, c'est exact. En France, depuis 10 ans, j'ai formé des formateurs, il y en a un peu plus de 500. Il y en a même en Suisse aussi. Et donc ces formateurs essayent de diffuser dans leur région, dans leur ville, ces formations à toutes les personnes qui sont soit des professionnels de santé, soit éventuellement des bénévoles, un peu comme le réseau Stop Suicide, pour intervenir dans la communauté.
Car en définitive, il y a quand même la plupart du temps des signes précurseurs, même si certains, ou la majorité, ou nous-mêmes, nous nous voilons parfois la face, parce que c'est un sujet qui fait peur.
Oui, il y a plusieurs trajectoires de souffrance. Il y a des personnes qui vous aident à les aider, en quelque somme. Ils vous disent qu'ils vont mal, qu'ils n'en peuvent plus, que c'est insupportable. Il y a des personnes qui sont fières, distantes, qui ne vont pas demander de l'aide. Il faut aller vers eux. Et c'est pour ça que la campagne de Stop Suicide, l'action d'Anne-Marie Trabichet est très essentielle. C'est aller vers les personnes plutôt que d'attendre qu'elles viennent vers vous. Et puis, il y a des personnes qui sont tellement désorganisées par leur maladie mentale, par leurs troubles, qu'elles doivent être prises en charge par la psychiatrie. Mais il y a une très très large place pour les actions dans la société civile, dans la communauté.
Donc d'où l'action que lance ce mois-ci, Stop Suicide, hein, qui dit on peut tous être le super-héros de quelqu'un. Bien sûr c'est une image, mais cela nous dit bien en définitive que nous tous, nous pouvons tendre une main et surtout écouter et essayer de percevoir, hein, car le suicide est un mal qui touche toutes les couches sociales, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment.
Alors c'est peut-être aller un peu vite, parce que c'est pas n'importe qui, mais ça peut se produire dans tous les milieux, à n'importe quelle heure, même à 5h45 du matin. Et il faut avoir une forme de vigilance civile. Et je pense que la campagne est tout à fait montre que chacun a un potentiel. Le suicide est un risque. Donc il faut faire beaucoup d'actions de prévention pour éviter un seul décès.
Oui.
Bien que, par exemple, la médecine n'a pas du tout le monopole ni de la souffrance, ni de la réponse.
Bien sûr, professeur. Dites-moi, excusez-moi de vous avoir interrompu, juste cette question, parce que là on s'adresse aussi à l'entourage des personnes, mais lorsqu'une personne se sent comme ça des pulsions et parfois essaye d'y résister, que peut-elle faire, à qui doit-elle s'adresser?
Alors, je pense que c'est l'entourage le plus proche, c'est travailler avec le réseau naturel de la personne, donc ça peut être son médecin généraliste, son médecin des familles, je ne sais pas comment vous dites en Suisse romande, mais son médecin généraliste.
Oui, on dit son généraliste aussi.
Son généraliste. Ça peut être aussi éventuellement des travailleurs sociaux qui ont été formés. Ça peut être bien sûr la psychiatrie quand il y a des des pathologies mentales repérées. Ça peut être aussi des associations d'aide. Donc ça, tout dépend un petit peu de l'organisation territoriale.
Oui, bien sûr.
Dans créer plusieurs, plusieurs réseaux assez informels, je dirais, parce que sinon c'est trop compliqué, trop à structurer. Mais il faut surtout ne pas se rassurer faussement. Quand une famille a une inquiétude, elle doit l'explorer avec la personne. La première chose à faire, c'est parler avec la personne. Ça fait 3 soirs que tu ne nous parles plus, tu as complètement changé, dis-nous. Il faut vraiment être curieux de l'autre. Il faut, j'ai dit quelquefois, l'absence de curiosité est une perversion.
C'est ça.
On masque les...
Dans le cas qui nous occupe, en tout cas.
Et on dit, mais si j'avais su... Et c'est quelquefois des petites phrases. C'est des phrases du style, tu sais, ma voiture, j'en ai plus tellement besoin, je peux te la donner. Et 2 mois après, lors d'un décès par suicide, on comprend le sens de cette phrase. Donc, il y a beaucoup de petits signaux qui méritent d'être décryptés. Il faut non plus pas développer une hypervigilance et une peur collective par rapport au suicide. Mais quand la personne sent qu'il y a un écart entre l'attendu et puis l'attitude de l'autre, demandez, mais dis-moi, écoutons, ça soit 5 minutes.
Oui.
Passerellement.
Merci beaucoup, professeur Jean-Louis Terra. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie à l'université de Lyon 1 et que, ma foi, vous êtes très impliqué dans la prévention du suicide. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.
Je voudrais saluer Anne-Marie
Oui.
Trabichet.
Oui, bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir d'entendre votre voix.
Oui, moi aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, vraiment très, très précieuse.
Très bonne journée et merci pour votre émission.
Merci à vous, professeur.
Exploitation économique, violence physique ou psychologique, les prostituées sont encore trop souvent victimes d'abus. Mais aujourd'hui, certains cherchent à briser l'opacité et le tabou qui entourent le milieu du sexe tarifé. Ils lancent une charte éthique pour salon de massage. Code moral pour Maison Close, c'est le reportage de 15 minutes, ce samedi à 12h40 sur la première et à tout moment sur rsrinfo.ch.
5h56, c'est le moment de prendre congé de vous, Anne-Marie Trabichet, donc coordinatrice de Stop Suicide. Merci de votre venue, merci des explications que vous nous avez données.
Merci à vous, surtout aussi d'offrir aussi cette possibilité de parler de prévention dont on parle pas assez souvent.
Et puis on rappelle que vous avez un site internet, que vous êtes en campagne et qu'on peut toujours s'adresser à vous.
Alors on peut aller chercher des numéros et des lieux d'aide sur notre site stopsuicide.ch, mais il y a des numéros qui existent, et j'en donnerai qu'un seul ici, qui est 143, qui est la main tendue.
143, la main tendue. Je vous remercie et bonne journée.
Merci.
Et bonne campagne, Anne-Marie Trabichet. Merci beaucoup.
Infotrafic.
Non, en principe, un petit disque peut-être. Mais je sais que, ma foi, l'informatique nous joue parfois des tours. Donc on appuie sur un bouton, puis c'est autre chose qui part. Je crois que c'est bon cette fois. Hello les Baseballs. Au risque de vous surprendre, The Baseballs est un groupe allemand de rockabilly fondé à Berlin en 2007. Extrait du récent album des Baseballs, Strings and Stripes. Ils seront en concert ce soir, 22 septembre, au Doc de Lausanne. Voilà. Bonjour Simon Matédoré.
Bonjour Georges Pop.
Vous avez vu à quel point on peut être marqué par son propre vocabulaire. J'ai parlé de disque tout à l'heure. Si je devais être à jour, j'aurais dû dire CD. Mais voilà, on est habité par sa propre génération.
Et puis même le CD, c'est complètement dépassé.
C'est dépassé. Hein. Oui, oui. devrait dire aujourd'hui?
Je sais pas. Moi non. Musique dématérialisée. Faudra qu'on pose la question à Nicolas Esquiaou, c'est lui le spécialiste des temps modernes.
Bah nous lui poserons la question. Oui. Don du sang au service de transfusion vaudois et palinge, comme tous les jours, au terminus des Croisettes de 8h30 à 19h. Et puis à Lausanne, à la salle de conférence de la place Chaudron de 13h à 17h. Demain, Simon Matédoré, nous allons recevoir madame Marie-Claire Kunz, qui s'occupe du secteur réfugié au centre social protestant à Genève. Elle a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire.
Il y a beaucoup de travail. Oui. Merci, Georges Pop. Bonne journée
et
à demain.
Et bon journal du matin à vous.
Infotrafic RSR.
Avec la double crème de la Gruyère de Crémo.
Le trafic est fluide pour l'heure sur les routes romandes. Les conditions de circulation sont généralement bonnes ce matin.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
Météo, Sébastien Dupéret.
Des bancs de brouillard se sont formés en fin de nuit en plaine, mais ils devraient rapidement se dissiper pour laisser la place à un temps bien ensoleillé. En Ajoie, toutefois, les passages nuageux pourront parfois être denses, mais ils n'entraîneront pas de précipitations. Les thermomètres affichent environ 7 degrés en ce moment, et cet après-midi, ils grimperont jusqu'à 20 degrés sur le plateau et 23 en